Réplique, la France est-elle moisie ? Avec Max Gallo et Philippe Solers. Alain Finkielkraut, prise de son Jean-François Néolier, réalisation Patrick Molinier. Même si l'actualité ces jours-ci a d'autres chats à fouetter, tout le monde a en mémoire la querelle qui a opposé Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur et miraculé de la République, à Daniel Cohn-Bendit, candidat des Verts aux élections européennes et héros de nos 20 ans. Au sortir de l'année du Tigre, Philippe Solers s'est intervenu avec éclat dans cette querelle. Et il fait paraître aujourd'hui, en ouverture du dernier numéro de L'Infini, La France moisie, l'article retentissant qu'il avait d'abord publié dans Le Monde. Puisqu'il n'a pas craint de relancer ainsi la polémique, j'ai invité aujourd'hui Philippe Solers à parler de notre pays avec l'auteur de L'amour de la France expliqué à mon fils, Max Gallo. Et d'abord, l'épithète qui fait mal, moisi. Qu'est-ce qui en France, Solers, mérite un label aussi infamant ?
D'abord, une France, pas la France. La suite, ça sera probablement autre chose. Il y a beaucoup de France, et beaucoup de France différentes. Là, c'était une réaction qui ne portait pas uniquement sur les réactions de Chevènement à l'égard de Cohn-Bendit. On a enfermé tout de suite ça dans ce débat. C'était un point de vue qui essayait d'être un petit peu plus large, d'expliquer d'où venait cette polémique, les accents qu'elle avait, le vocabulaire employé, pas seulement par Chevènement, mais aussi par Charles Pasqua, qui a dit de Cohn-Bendit, il est comme les Allemands, il revient tous les 30 ans, etc. C'est quelque chose qui m'a semblé, comme ça, relent, xénophobe, ou venir d'une vieille France, d'une France archaïque. Le mot m'est venu moisi, comme ça, on l'a transformé immédiatement en pourri, comme si j'avais employé un terme d'une violence extraordinaire. Il me semblait que dans pourri, non, il y a une sorte de... J'ai pas du tout employé. J'ai parlé de cette impression de vieille chose qui reviendrait.
Alors, mais cette vieille chose, c'est quoi ?
Une vieille chose qui revient. Alors, j'ai essayé justement d'être un peu plus large dans ma démonstration. C'est-à-dire, évidemment, les choses qui ne passent pas en France, c'est-à-dire une culture française que j'appelle Dax, Vichy, Moscou, pour aller vite, mais pour faire image. C'est-à-dire, toute la vieille chose, en effet, vichyste qui n'a pas manqué de persister jusqu'à nous, dont on voit le retour parfois, notamment à l'extrême droite, enfin, qui est très vivante, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et puis, évidemment, du passé stalinien, qui est plus vivant que jamais, nous en voyons tous les jours la démonstration dans l'actualité. Autrement dit, il s'agit d'une chose très simple, qu'on évite, à mon avis, de traiter le plus souvent, c'est de savoir par quelle force ont été modelés les intellectuels français au cours du XXe siècle. Il y a là deux force principale, à mon avis, je crois que ça peut se démontrer. D'une part, la tradition d'Action française, qui a formé non pas des intellectuels populaires, encore que, mais beaucoup, 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 qui a eu énormément d'influence chez les élites intellectuelles. Je crois que j'aborde ça dans mon journal, L'année du Tigre, sous forme d'un rappel de ce que Claudel a eu, par exemple, à subir de la part de ce côté-là des choses. C'est l'histoire du catholicisme français, qui est quand même une énorme affaire. Et puis d'autre part, en effet, tout ce qui a pu se développer comme stéréotypes, clichés, asservissements, mensonges, à travers l'épisode qu'on a appelé communiste. Mm-hmm. Et je pense que ça fait beaucoup de monde,
vous
en fait, c'est un vieux monde qui se décompose très lentement et qui revient comme ça à la charge, à la faveur d'événements comme par exemple les élections européennes, la question de l'Europe, etc. Mm-hmm. Alors Cohn-Bendit, bien sûr, c'est comme un tournesol, vous le mettez là, et comme par hasard, il y a le spectre de 68, il revient, ça fait surgir beaucoup de choses. J'ai rappelé notamment que lors de la fameuse manifestation patriotique qui avait lieu en 1968 sur les Champs-Élysées, le mot qui avait tellement bouleversé Mauriac, qui participait lui-même à cette manifestation hyper patriotique, avec un gaulliste, qui entendait dans la foule crier Cohn-Bendit à Dachau. Ça l'avait, c'est dans son bloc-notes, et ça l'avait bouleversé, mais c'était quelqu'un de sensible. Voilà, c'est ça dont je parle.
Donc,
dans cette affaire qui est historique, Ce que je crois qu'il a fait le plus mal, c'est que quand j'ai dit que je me considérais comme un écrivain européen d'origine française, ça il faudrait que je me développerais si vous voulez, et d'autre part, c'est ce que je sens profondément, à savoir qu'il y a des gens qui voudraient se débarrasser de la culture positive, très créatrice du XXe siècle, pour revenir en quelque sorte avant 14, alors nous retomberions dans une problématique 19e. Voilà.
Et donc un peu, sinon...
Un peu daté, la France datée, si vous voulez.
Fatigué, d'accord. Max Gallo.
Oui, moi quand j'ai lu l'article de Philippe Solers dans Le Monde, La France moisie, et je l'ai relu bien entendu maintenant qu'il est repris dans la revue L'Infini, j'ai eu évidemment une réaction extrêmement vive de colère et j'ai commencé à tremper ma plume dans l'encre. Puis je me suis dit, au fond, pourquoi lui donner tant d'importance à cet article ? Et d'ailleurs, je conteste un peu le chapeau d'Alain Finkielkraut quand il dit éclatant, je crois, un article beaucoup d'éclat.
Avec éclat.
Pour moi, je
ça a provoqué des éclats.
Non, oui, ça a provoqué des éclats. Mais je ne veux pas réduire un article à sa situation dans un quotidien. La Une du Monde a donné à cet article un éclat qui, à mon sens, il ne mérite pas. Je le dis tout à fait franchement. J'ajoute d'ailleurs que dans le propos que vient de tenir Philippe Solers, il y a comme une amorce de reculade, je dirais. Parce que quand on lit son article avec attention, ce que j'ai refait, et quand il écrit « Il y a une bêtise française sans équivalent, laquelle on le sait fasciner Flaubert, l'intelligence en France est d'autant plus forte qu'elle est exceptionnelle », tout le propos qu'il a tenu à l'instant, à savoir « Je parle d'une certaine France, il y a plusieurs Frances », n'apparaissait pas tout à fait clairement dans ce
qu'il faut assumer. Le volet positif.
Non, il faut assumer ce qu'on écrit, cher Philippe Solers. Quand on lit ce papier et cet article aujourd'hui dans L'Infini, c'est la France, je dirais, dans sa réalité contradictoire qui est mise en accusation. Et je dirais que c'est au fond la majorité silencieuse, c'est l'ensemble des Français. Alors maintenant, vous nous dites, c'est une certaine France. Mais j'ai trouvé...
Oui, une France nombreuse.
C'est une certaine France. Vichy et là, vous avez dit...
Vichy, Moscou, ça fait beaucoup de monde.
Justement, je suis très heureux que vous mettiez l'accent sur ce rapport entre Vichy et Moscou sur Seine. Je crois que c'est ainsi que vous appelez ces deux pôles qui sont jointifs dans votre esprit, dans votre journal de l'année 1998, et que je retrouve d'ailleurs dans une interview que vous avez donnée au Temps Moderne dans leur numéro de janvier-février 99 sur Georges Bataille, parce que je vous avoue très franchement que je ne sais pas comment discuter votre position, comment la contester ou même argumenter. Pourquoi ? Parce que j'ai lu, et je ne pense pas me tromper, puisque je l'ai recopié, j'ai lu l'une de vos phrases qui me paraît caractéristique de votre méthode de raisonnement et d'affirmation. Je la cite. Tout à fait parfaitement. En 1940, écrivez-vous, dans les temps modernes, 70% des Français sont pétainistes, y compris Marguerite Duras. Ce que vient faire Marguerite Duras dans ces 70%, je n'en sais rien, car on n'en parle pas par ailleurs.
Parle dans mon journal.
Oui, dans le journal, mais là,
nous avons eu beaucoup de révélations avec la biographie.
En 1940, 70% des Français sont pétainistes, y compris Marguerite Duras, et 29% sont staliniens. On arrive à 99%. C'est ce que j'appelle dans mes livres, qu'on me reproche assez, l'axe Vichy-Moscou. Les conséquences sont là dans les années 50, de façon hallucinante, écrivez-vous. Alors moi, quand quelqu'un, avec une assurance, une évidente, une simplicité, comme ça, comme si c'était un fait, m'annonce, en 1940, 70% des Français sont pétainistes, y compris Marguerite Duras, et 29% sont staliniens, est-ce en moi un réflexe d'historien, ou simplement d'individu qui s'attache à une idée de la raison telle qu'elle a surgi au XVIIIe siècle qui vous est chère, je ne peux pas discuter ce type de propos. Parce que 70% des Français sont pétainistes. Monsieur Henri Amouroux dit 40 millions de pétainistes en France. Pourquoi 29% de staliniens en 1940 où êtes-vous allé chercher ces chiffres? S'ils sont simplement une pirouette, si vous dansez avec des chiffres, avec des réalités qui sont tragiques, comme ça pour faire... dire 70 plus 29, ça fait 99, c'est Vichy et Moscou-sur-Seine, alors nous plaisantons. Mais si c'est sérieux, alors là, nous analysons la situation de la France en 1940 et nous parlons sérieusement d'histoire. Et le reproche fondamental que je fais à votre papier, je peux le décortiquer c'est précisément de jouer avec ce que j'appellerais, pardonnez-moi, un faux brio sur des idées graves, alors que chacune de vos assertions peut être discutée historiquement à partir du fait. Et moi, je suis de ce point de vue-là le Voltaire, du côté du Voltaire de l'affaire Calas, puisque vous aimez beaucoup Voltaire, je suis pour les faits et non pas pour les pirouettes stylistiques.
Alors, sur ce fait, sur ce chiffre, Philippe Solers, et puis j'interviendrai à mon tour.
Non, mais tout de suite, pirouette stylistique, voilà.
Écoutez, comment peut-on appeler ça autrement ?
Attendez,
allez-y. Philippe Solers.
Je ne fais pas œuvre d'historien. Je suis un écrivain qui réagit et qui dit ce qu'il a envie de dire, mais sur un fond quand même, sur un fond quand même qui ne manque pas de vérité, puisque je ne vois pas comment vous pourriez contester, laissons tomber 70%, 20%, mais enfin, si vous voulez. Oui, mais Glavagnier a dit aussi qu'il y avait à un moment donné, qu'il y avait pour justifier Mitterrand, n'est-ce pas bon, qu'il y avait, vous savez ça. Alors, écoutez. Le problème, c'est pas de se demander ce qui se passait seulement en France. Il faut se demander, par exemple, ce qui se passait à Londres. En 1940, je n'ai jamais su qu'il y eut, puisque vous admirez le général de Gaulle, il n'y avait pas tellement de Français résistants à Londres en 1940. Il n'y avait pas foule. Hein, il y en avait combien, d'après vous, puisque vous êtes historien? Donnez-moi un chiffre.
À propos des Français à Londres.
À Londres, en 1940, combien y avait-il de Français qui étaient déjà engagés dans la résistance à Londres?
Ça se comptait en quelques centaines, peut-être quelques milliers. Si on...
Vous voyez que ça fait très peu sur un pays quand même d'autant de monde.
Hein, voilà. Ce n'est pas...
Je dis ça pourquoi? Parce que je crois, malgré tout, qu'il y a dans ce pays un problème fondamental qui est que l'histoire est faite d'une façon à dissimuler un certain nombre de vérités qui me paraissent à moi évidentes. Je vais vous dire comment, en tant que Français, je me ressens dans ce pays. Bon. Il se trouve que j'ai une enfance à Bordeaux, dans une famille anglophile, etc., et que donc j'ai tout de suite entendu ce qu'il fallait, à mon avis, entendre, que je n'ai jamais eu à remettre en question, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas lieu d'admettre, en effet, les nazis en France, qu'il n'y avait pas lieu d'avoir le moindre compromission avec le régime de Vichy, qu'il n'y avait pas lieu non plus d'avoir quoi que ce soit comme intérêt vis-à-vis de l'Union soviétique, etc. Et l'histoire est très lente de ce point de vue, parce que depuis cette époque, enfantine, je cherche une bougie à la main des gens comme moi en France. Je serais ravi d'en rencontrer. Si vous en connaissez, je serais ravi de les voir. Mais malheureusement, ce n'est pas l'expérience que je peux partager avec des Français de ce pays. Voilà pourquoi, en tant que Français, très soucieux de la grandeur nationale, je me révolte contre cette espèce de chape de plomb.
Alors, cette chape de plomb, je voudrais dire un mot à mon tour. Alors, d'abord, une citation de Churchill sur laquelle vous serez d'accord, d'abord parce que c'est un fait, et c'est Churchill disant à propos justement de la résistance, « Rarement autant d'hommes auront dû autant à si peu d'hommes. » Autant d'hommes, les Français, à si peu d'hommes, les résistants.
Voilà, là, ça me semble une vérité historique.
C'est une vérité, mais il y a une autre vérité historique que je voudrais apporter au débat, celle qui concerne précisément la collaboration, et notamment la collaboration des écrivains. C'est Raymond Aron, dans ses chroniques de guerre, qui sont extraordinairement intéressantes, écrites à Londres, a consacré un certain nombre de textes, justement, à ceux qui ont voulu justifier l'injustifiable, à savoir l'impérialisme germanique, comme on disait à l'époque. Chardonne, Benoît Méchain, Duret-Larochelle, Alfred Fabrelus, Monterland. Et pour Chardonne, la défaite était, en effet, dit-il, une affaire privée. C'est-à-dire, la France a été battue parce qu'elle le méritait. Et elle le méritait pourquoi? Elle le méritait parce qu'elle était croupissante, parce qu'elle ne valait plus rien, parce qu'elle était moisie. Autrement dit... Le terme de la France moisie, il ne disait pas dans le même sens que vous, Philippe Solers. Voilà, il ne s'agit pas pour moi de
faire
procès
qui m'est fait.
Non, mais alors, je voudrais simplement vous lire un extrait de Monterland, publié par Pierre Hébet dans son livre de chez Gallimard sur les années sombres de la NRF. Et voici ce qu'écrit Monterland. « En France, tout ce qui est un peu fort fait scandale », écrivait déjà Stendhal. Cette sorte de demi-intellectuel qui, à la table voisine de la mienne, au restaurant vitupère quand viennent de sortir deux dîneurs allemands, ils disent qu'ils vont en Afrique, eh bien ils vont montrer aux nègres de beaux spécimens de la race blanche. Alors que ces Allemands étaient des types magnifiques d'humanité, j'ai envie de lui jeter mon assiette à la figure. Et toi, est-ce que tu t'es regardé? Mais quelle erreur! Car ses épaules étriquées, ses cuisses de sauterelle, sa calvitie précoce, sa tête de penseur qui ne penserait pas, c'est cela qu'il trouve bien, c'est cela pour lui l'idéal. Que ces Allemands respirent le grand style de la force, c'est cela même et cela seul qui le braque contre eux. Il n'y a aucun rapport entre ce que vous écrivez, Solers, c'est ce qu'écrit Monterland.
Pourquoi en faire un, alors?
Non, ce que dit Monterland, c'est que la France de 39-40 était une France moisie. Autrement dit, il y avait, si vous voulez, une espèce de haine de la nation chez ceux qui ont choisi la collaboration, qui ont choisi la rédemption par le nazisme, qui doit être pensée. Ce n'étaient pas des nationalistes effrénés, c'était des gens, au contraire, qui méprisaient la nation à laquelle ils appartenaient parce qu'elle était croupissante, languissante et moisie.
La situation, oui, mais peut-être que oui. Mais alors, de Gaulle a dit les Français sont dévots. Bon, attendez, est-ce que vous avez remarqué la citation que je fais de Martin Dugard, prix Nobel, dans mon journal, qui date, je crois, de 1942, et qui donne le ton de ce que j'attaque. C'est-à-dire, les Anglais, ces salauds d'Anglais, ont encore bombardé la France, etc. Eh bien, voilà, on devrait, heureusement, en somme, il faudrait leur faire sentir lorsqu'ils arriveront avec leurs avions. Bon. C'est une situation historique donnée. La question n'est pas de savoir qui représente plus ou moins un idéal racial, etc. C'est pas ça du tout. La question est de savoir qui, à ce moment-là, a accepté de se courber, a accepté de collaborer, a accepté un asservissement, et qui est aujourd'hui au cœur de la polémique qui nous vient tous les jours, à savoir, alors, il y a eu, oui, alors vous faites comme Rebattet, comme Brasillach, comme Céline, etc., vous traitez les gens de moisis, et puis le vent venait à ce moment-là d'Allemagne, et maintenant il vient d'Amérique, et vous êtes asservi aux Américains, parce que vous approuveriez les frappes de l'OTAN, etc. Tout ça, c'est ridicule, et ce sont des dissimulations. Je pose un problème, est-ce que, dans cette culture française, est reconnu, oui ou non, un apport gigantesque, positif, de créativité au XXe siècle. C'est pour cela que, en effet, lorsque je vois revenir des écrivains certes considérables comme Peggy ou Bernadotte ou d'autres, je m'interroge sur le fait de savoir pourquoi ne pas parler plus tôt de ces génies qui ont été, je ne sais pas, Proust par exemple, qui comme vous savez critiquait beaucoup Peggy, et puis d'autres, et puis pourquoi ne pas parler de cette culture merveilleuse du XXe siècle qui s'appelle Stravinsky, Joyce, qui vous
mais
voulez.
C'est pas au détriment de Proust qu'on parle de Peggy.
Et Picasso. Alors. C'est ça que je veux faire sentir. Je ne sens pas, dans cette France que l'attaque, un véritable amour pour cette création magnifique, pas seulement française d'ailleurs, du XXe siècle, c'est tout.
Macdalo. Bon, moi je vais probablement paraître pion, cuistre, j'accepte même le traitement d'universitaires que les universitaires que vous n'aimez pas, je l'ai été longtemps, et je vais donc tout à fait bêtement revenir à la citation que j'avais recopiée. Parce que, à cette citation, 70% de Français sont pessimistes, sont pétainistes, c'est un peu la même chose, et 29% sont staliniens, on arrive à 99%. Quand je vous rappelle ce texte, vous dites, mais moi je suis écrivain, je ne suis pas historien. Alors, laissez-moi parler maintenant. Je trouve que, et là, je réutilise le mot, je trouve, vous avez dit, je suis écrivain, oui. Donc un écrivain sous-entendu, même quand il parle de questions historiques précises, quand il s'aventure à formuler un diagnostic sur l'état de la nation à laquelle il appartient, il a le droit de dire, écoutez-moi, vous savez, je suis oiseau, mais je suis souris en réalité.
J'assume pleinement la vérité historique de ce que j'ai dit.
Non. Elle est tout à fait inexacte.
Eh bien,
elle est tout à fait inexacte, et parce que, qu'est-ce que ça signifie dire, en 1940, il y a 29% de staliniens. Le Parti communiste n'existait plus en 1940. Je vous signale qu'il était pourchassé avant les Allemands par le gouvernement de Vichy et déjà par le gouvernement de Daladier.
Et le pacte germano-soviétique.
Mais justement, vous devriez savoir qu'à la suite du pacte germano-soviétique, il y a eu une certaine crise au sein du Parti communiste, pensons à Paul Nizan par exemple, une certaine crise que le gouvernement Daladier a voté même une série de lois qu'on peut justifier à cause du pacte germano-soviétique et de l'état de guerre, et que donc le Parti communiste se résumait probablement à quelques milliers de militants, alors qu'il y ait eu une imprégnation dans la population, voilà. Je ne sais pas.
C'est ça
mais,
que je veux dire.
Mais là, ce que vous voulez dire, ce qui fait que notre conversation risque de ne pas avoir lieu, tout en continuant, j'espère, une heure, c'est que pour moi, les mots, les chiffres, ont une importance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, quand on touche à des choses précises, sérieuses, qui ont un écho, compte tenu précisément de la place que leur donnent les médias, on ne peut pas se contenter d'approximation.
Mais Max Gallo,
c'est pas possible. Ou alors on dit, je suis un irresponsable.
Alors Max Gallo, quand même un mot sur sur la thèse soutenue par Philippe Solers. On laisse de côté, disons provisoirement, cette question des chiffres. Y a-t-il, selon vous, aujourd'hui, une présence forte, de cette France de Vichy? Est-ce que l'esprit de Vichy souffle sur la France comme le prétend Philippe Solers? Et disons, alors, commençons par Vichy, si vous voulez.
La situation d'une nation, et notamment de ses élites intellectuelles, écrivains, journalistes, etc., est une situation toujours contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Ça ne veut pas dire qu'on regarde la bouteille et qu'elle est à moitié pleine ou à moitié vide, c'est qu'elle est toujours contradictoire. Je crois cependant qu'il y a une constante, et je réponds à votre question, voilà, mais je fais un détour un peu historique. Je crois qu'il y a une constante qui est l'axe de toute l'histoire nationale pour le XXe siècle, après la guerre de 14-18. Les Français, spécialement les élites françaises, je pense à des livres de Drieu La Rochelle des années 1926-1925, Le Jeune Européen, etc. Les Français, à la suite de l'hécatombe de 14-18, et à juste titre, ont commencé, et particulièrement les élites, ont commencé, par élite, j'entends par là, tous ceux qui représentent un groupe social. Donc je ne pense pas élite bourgeoise. Pour moi, je peux parler des élites qui estiment représenter la classe ouvrière, ont commencé à s'interroger sur le sens de la nation, de la France, et à douter d'elle. Vous lisez quelqu'un comme Drieu La Rochelle, à bien avant la collaboration, combattant de 14-18, valeureux, courageux, qui s'interroge en disant « Mais au fond, c'est une boucherie. À quoi tout cela a-t-il servi? Nous avons finalement travaillé pour les Anglais. Nous nous sommes tués entre Français et Allemands pour rien. » Et si bien que la question fondamentale posée à la nation française pendant le XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, 1999, c'est est-ce que ça a encore un sens d'être français? Alors le type de réponse que l'on pose à cette question, qui est une question pour moi décisive, qui ne s'est produit qui n'a été posée à la France qu'à deux autres moments de son histoire, pendant la guerre de Cent Ans et pendant les guerres de religion, où des gens, avec la meilleure bonne foi, avec leur foi précisément, huguenote ou pas, se sont interrogés sur la nécessité de maintenir ensemble ce corps qui est disjoint par nature, je dirais, de le maintenir ensemble. Eh bien, cette question-là, c'est la question centrale. Alors, vous avez en effet, dans la France, vous avez des gens qui ont répondu d'une manière que je qualifierais de réactionnaire ou de xénophobe à cette interrogation.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. C'est le moins qu'on puisse dire, avec parfois des aspects extrêmement curieux. Moi, je suis niçois. J'étais tout petit enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens très bien que être pétainiste, mon père ne l'était pas, il était résistant, je le dis tout de suite, mais être pétainiste à Nice en 1942, cela signifiait vouloir être français. Car vous aviez les Italiens qui réclamaient la possession de Nice.
Donc
les
choses,
c'est un peu exceptionnel, mais c'est pour dire que les choses ne sont jamais simples. Alors il y a la réponse réactionnaire, il y a une autre réponse qui est une réponse de fuite dans un ensemble plus vaste, et vous devriez savoir que toute la propagande allemande pendant la guerre, on ne parle jamais de cette archéologie-là de la construction européenne, que toute la propagande allemande pendant la guerre s'est faite sur le thème de l'Europe, la jeune Europe. C'est ceux qui pensaient vraiment assez de guerre, sortons par le haut de cette nation qui est ou pas assez combattante, ou exsangue, ou trop petite, et unissons-nous à l'Allemagne. Et puis vous avez une troisième voie, qui est ce que j'appellerais la voie patriotique, qui est d'essayer d'inventer pas à pas, pour la fin du XXe siècle, une nation qui soit dans le droit fil d'une France, en effet, mais qui en même temps soit une nation ouverte. Donc on ne peut pas tout mélanger.
Alors un mot simplement pour illustrer cette propagande dont vous parliez, et là je cite encore Raymond Aron, un article intitulé « Le destin des nationalités, 1942 ». La propagande d'origine allemande en faveur des grands espaces a séduit nombre d'esprits. On obtient à leur présente, en dénonçant le découpage de l'Europe, le même succès facile et sûr qu'on obtenait il y a 25 ans en vitupérant la diplomatie secrète. Les unités politiques, dit-on, doivent être à la mesure des moyens matériels dont dispose l'humanité. À l'âge de l'aviation et de la télégraphie sans fil, la division de l'Europe en une vingtaine d'États souverains est aussi anachronique que la faucille à main ou la charrue à bras. Militairement, économiquement, politiquement, pontifient les docteurs de la nouvelle sagesse, l'ère des États nationaux, et surtout l'ère des petites nations, éclose.
Voilà aussi comment parlait une certaine propagande collaborationniste en 1942. Mais bon, je close cette petite parenthèse.
Il y a eu des tours de bord de l'idée de nation par ce qu'on a appelé la révolution nationale. C'est-à-dire réactionnaire, c'est peu dire. Appelons-la comme c'est son nom. Appelons-la la tentative ouverte, proclamée, juridique, exclusive, excluante, de fonder un État fasciste, tout simplement.
J'ai
en France,
xénophobe,
n'est-ce pas
dit.
Donc on peut détourner l'idée de nation,
l'idée d'Europe aussi d'ailleurs.
Et j'allais y venir, il y a eu détournement de l'idée européenne, vous faites l'histoire du XXe siècle, par en effet les nazis, évidemment. Et puis, il y a eu le détournement de l'idée internationaliste, etc., par le stalinisme. Et puis, tout ça a beaucoup, en effet, frappé les Français qui se sont tantôt raccrochés à l'une, tantôt à l'autre, tantôt à une troisième. Et l'idée patriotique elle-même est restée, si j'ose dire, dans les limbes. Alors, reprenons tout ça. Est-ce qu'on va dire l'Europe, c'est une idée allemande? Ben non.
C'est pas ce que j'ai dit. Hein.
Non, mais je vais dire aujourd'hui. Est-ce que c'est une idée allemande? Est-ce que tout à coup, il faut conserver absolument ce pays intact par rapport à cette mixité douteuse qui ferait qu'on ouvrirait les frontières, qu'on ressusciterait la grande idée d'Europe? Je m'en tiendrai un point de vue tout simple qui est philosophique. Quelle était la haine de tous ces gens? Vous le savez que c'est aussi bien que moi, c'est l'Europe des Lumières, c'est l'Europe de Voltaire, c'est le...
Comme qu'est-ce dirait, que vous entendez par tous ces gens? C'est ça qui m'intéresse.
Oui, mais enfin...
Les collabos, c'est ça?
Non, mais c'est évident que la grande idée européenne française, c'est-à-dire la France comme, moteur, lumière de l'Europe, a pris fin à un moment donné, n'est-ce pas, dans le cirque nationaliste et ensuite dans les
discussions tragiques. Parce que vous savez, la partie pour montrer combien Mascalo. Les choses sont complexes. J'ai des idées simples, mais les choses sont complexes. Au moment du Front populaire, le Parti communiste s'est fait le héros, on en pense qu'on voudra, mais il s'est fait le héros de précisément les Lumières. Il a été le porte-drapeau, les philosophes, Condorcet, Diderot, la Marseillaise, le film de Renoir, etc. Donc les chemins...
On sait bien qu'il n'en était pas ainsi dans la pratique.
Non, mais les chemins de la conscience nationale sont, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Nice, les chemins de la conscience nationale sont des chemins qui sont en effet autre chose que des lignes droites que vous décidez un peu facilement, je dirais.
Philippe Salers, je voulais vous poser une question, justement. On sait bien qu'il n'en a pas été aussi ainsi dans la pratique pour ce qui est de l'usage par le Parti communiste de la philosophie des Lumières. On sait aussi...
Qu'on revoit surgir, c'est
on sait aussi qu'il y a eu une dialectique des Lumières, pour parler comme Horkheimer et Adorno. Et alors là, moi, je voudrais, justement, dans le sens de cette dialectique des Lumières, poser le problème actuel. Parce que vous dites, Vichy ou le couple Vichy-Moscou-René, voilà l'ennemi. Et personnellement, je n'en suis pas sûr, justement, quand on prend l'exemple de Cohn-Bendit. Parce que Cohn-Bendit, dans cette polémique avec Chevènement, il a été d'une certaine... Enfin, tout le monde a été du côté de Cohn-Bendit dans les médias, c'est-à-dire dans le seul pouvoir qui compte. Le pouvoir, aujourd'hui, il n'est pas étatique, il est médiatique. Cohn-Bendit est un chouchou. Et je ne le regrette pas nécessairement, mais en tout cas, ça doit peut-être, nous amener à réfléchir sur ce que sont et ce que pensent les élites contemporaines. Et là, je vais donner un exemple très précis. Et je vais aller, si vous voulez, quelques secondes dans un des bastions des véritables maîtres de l'univers, à savoir Canal+. Et bastion du bastion, les guignols de l'info. Parce que ceux qui rient de tout le monde et ceux dont on ne rit pas, c'est vraiment les plus forts. S'il y a un métalangage, c'est le leur. Et je me souviens d'un petit sketch au lendemain de la mise à sac des bureaux de Dominique Voynet par certains agriculteurs de la FNSEA.
Céréaliers.
Vous avez raison, Philippe Solers. Ah ben alors là, merci. Justement, nous allons tomber d'accord. Parce que c'était
très,
des céréaliers.
Très précis sur les...
Il le faut. Parce que c'était des céréaliers, c'était pas des paysans. Mais à quoi avons-nous assisté comme petit sketch? Eh bien, on a vu Dominique Voynet et un paysan, précisément, qui lui parlait très gentiment, en disant « Oui, Madame Voynet, il faut polluer un peu moins, l'agriculture productiviste, ça va pas, etc. » Et il était très gentil. « Oui, cette mise à sac, c'est absolument scandaleux. » Et à ce moment-là, a défilé un petit une petite légende, et avec une voix off qui la lisait, où il nous était dit ceci: Canal Plus s'excuse, mais on a dû faire comme TF1, on a bidonné le reportage parce que nous n'avons été dans l'impossibilité de trouver un paysan tolérant, ouvert et ami des femmes, non misogyne, si vous voulez. Voilà. Et ça, évidemment, tout le monde éclate de rire. Imaginez, attendez, je termine très vite. Imaginez ce qui se serait passé si, sur une chaîne de télévision, on avait dit ça après, disons, un saccage dans une banlieue, et on avait dit, bah oui, on a cherché un beurre des cités, tolérant, sympathique et ami des femmes, on n'en a pas trouvé, on a pris un intermittent du spectacle. Ça aurait été un déchaînement total racisme. Le racisme contre les paysans, il est autorisé aujourd'hui parce que l'élite contemporaine, elle est, et là je vais utiliser un vocabulaire précisément de l'agriculture, elle est hors sol. Elle est absolument hors sol. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est un monde hors sol pour lequel les gens vraiment étrangers, les gens vraiment méprisables, ce sont les autochtones. Alors est-ce que vous ne vous trompez pas, si vous voulez, de cible? Est-ce que votre cible ne devrait pas être celle de Debord, c'est-à-dire le village global et les préjugés qu'il véhicule, plutôt que ces nostalgiques racornis d'une France assoupie?
Je n'ai pas écrit que cet article.
Non, c'est vrai.
J'ai publié un grand nombre de livres, je m'excuse de le rappeler.
Non, mais vous avez raison.
Et puis, où je parle de beaucoup de choses, et vous verriez justement que, d'une certaine façon, je peux aborder ce genre de questions de façon très critique. Je rappellerai simplement que j'étais dans la rue, non pas en regardant Canal Plus, lorsqu'il y avait la manifestation des chasseurs, où il y avait une foule très importante, avec des slogans parfaitement honteux contre Dominique Voynet, avisant quelques pancartes de type tout à fait obscène, j'ai demandé très poliment à l'un des chasseurs, en état quand même d'excitation visible, s'il n'avait pas honte de promener ses banderoles, etc., et qu'il m'a répondu pas du tout, et non seulement ça, mais j'ai failli me faire casser la gueule. Je voudrais revenir maintenant sur ce que vous avez cité, comme parce que je crois que c'est le problème essentiel, pourquoi je dis écrivain européen d'origine française, et pourquoi ça n'est pas du tout parlé comme le détournement européen des nazis ou de l'extrême droite qui a détourné cette idée à son profit, et pourquoi il faut la faire vivre, à mon avis, avec le génie français. Vous avez cité Drieux-La Rochelle comme étant en somme l'exemple
dans les années 25-30.
Moi, je voudrais rappeler quand même qu'il y a une autre France très libertaire, très anarchiste, mais irrévolutionnaire, que la guerre de 14 n'a pas provoqué seulement ce genre de questionnement, mais au contraire, quelque chose qui s'est appelé le surréalisme, si vous voulez. Tous les mouvements des dits modernes, d'avant-garde, etc., qui ont été fortes influentes, citons le nom d'André Breton, qui d'ailleurs a été obligé de partir aux États-Unis, vous savez comment précisément, du côté de la Méditerranée, et comment il est passé là-bas. Cette histoire, avec Lévi-Strauss et d'autres, qui ont été obligés de partir, cette histoire est très importante, à mon avis, elle est méconnue trop profondément. Voilà sur quoi je voulais insister, c'est-à-dire que Paris, entre 1920 et 1939-40, a été la ville lumière où se sont fait beaucoup des créations merveilleuses. Joyce écrivait Finnegan's Wake à Paris, on lit bien, entre autres, je suis dans Paris, les adresses où il était, parce que c'est un écrivain que j'adore, et je me renseigne sur le fait de savoir où il était quand il écrivait ce livre inouï, en exilé irlandais à Paris. Et comme ça, je peux vous citer, Picasso était là, en train de faire une œuvre absolument merveilleuse, qui est trop peu, à mon avis, analysé. Il est très célèbre, il vaut très cher, mais si vous mettez quelqu'un devant un Picasso, c'est très difficile de lui faire sentir et même comprendre, parce qu'il est trop, en effet, infesté d'images, de télévision, de cinématographes, etc., alors que ces faits produisent là un changement dans la perception, dans la sensation, etc. C'est ça, pour moi, la grande France. Qui a été saqué par la Révolution nationale, saqué par le stalinisme.
Mais là, vous enfonçez des portes ouvertes.
Et
je
non,
dirais.
Non, ce
mais
sont si, des portes très fermées, si, justement.
Ce qui serait beaucoup plus intéressant, enfin, plus intéressant, plus neuf comme questionnement, et qui irait au cœur de la contradiction de cette société française et des élites, ce sont deux questions, à mon avis. La première, c'est de s'interroger s'il n'y a pas dans la France, depuis précisément le XVIIIe siècle et peut-être avant, une défiance générale des élites à l'égard du peuple. Autrement dit, si, peut-être, c'est une hypothèse, hein, peut-être à cause de l'irruption dans la rue des massacres de septembre, de la guillotine, de cette irruption de la terreur qui a été aussi une terreur populaire. Si les élites, je dirais...
La terreur a peut-être été une contre-révolution.
Mais toutes tendances confondues, et n'oublions pas que la Révolution française a été redoublée par les journées de juin 48, elle a été redoublée par la Commune, donc il y a, si vous voulez, à l'égard du peuple, des chasseurs, des paysans, vrais ou faux, céréaliers ou pas, il y a de la part des élites l'expérience historique, je dis bien l'expérience historique, d'élites qui ont vu, sous la brutalité de l'irruption populaire, il faut le dire, des sans-culottes, c'était aussi le peuple, donc s'il n'y a pas une défiance devant ce mouvement-là, à la fois violent, brutal, terroriste. Et s'il n'y a pas en France une sorte de coupure qui n'existe pas, qui existe différemment dans des pays comme l'Italie ou la Russie avec le populisme, etc., mais s'il n'y a pas réellement une coupure qui fait que, je vais vous citer Bernanos qui dit, il y a une bourgeoisie de droite, il y a une bourgeoisie de gauche, et puis, dit-il, il y a le peuple. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est une hypothèse. Deuxièmement, je vais conclure, puisque Philippe Sellers a parlé, et il en parle longuement, jusqu'à reproduire un tableau de Picasso dans son journal, et je trouve que c'est très bien de parler de Picasso, de mettre l'accent sur les marges, sur ce rôle des marginaux. En effet, je crois qu'il y a une dialectique entre ce qu'on a pu appeler, à tort peut-être, les avant-gardes et le reste. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi quelqu'un comme Picasso a été, à partir de 1944, a été communiste. Pourquoi il l'est resté un certain nombre de temps? Je veux dire par là que quelle a été cette curiosité peut-être nationale que quelqu'un qui fait irruption dans la peinture, qui en effet est un personnage que je crois très important, brusquement se trouve encadré, reçoit, c'était encore dans ma région, recevait comme un peintre stalinien, M. Maurice Thorez en vacances, discutait avec lui et était photographié dans les journaux communistes locaux. Donc, ça, comment, je veux dire, voilà une interrogation qui serait neuve. Quel a été le rapport curieux, tordu, la manipulation par le PC? Mais pourquoi cette fascination, même de Breton, pendant un certain temps, puisque vous savez bien qu'il a été communiste, Breton, avant d'en être, d'en partir,
oui,
etc. Non, mais je suis d'accord.
Vous n'allez pas faire de Breton un stalinien notoire, tout le monde sait que ce n'est pas vrai.
Je ne suis pas du tout un stalinien. Je dis que si l'on veut réellement faire une histoire de la culture française, on est obligé non pas de se contenter de pousser des portes qui sont déjà ouvertes,
elles sont pas ouvertes,
mais d'aller dans des lieux qui restent obscurs.
La preuve, la discussion est toujours passionnée sur ces sujets-là, donc les portes sont entrouvertes, elles sont pas vraiment ouvertes, elles ont toujours tendance à se refermer, du moins c'est ce que je ressens, je l'exprime. Vous disiez les élites ayant peur du peuple.
C'est une hypothèse
à travailler. Mais pourquoi ne dites-vous pas que la bourgeoisie de droite comme de gauche, et la bourgeoisie rouge comme la bourgeoisie brune, on pourra l'appeler comme ça, a eu très peur, elle aussi, non pas seulement du peuple, ça va de soi, mais de tout ce qui pouvait faire avancer les connaissances et l'esprit humain. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour qu'on puisse acheter un tableau de Matisse dans les collections françaises? Pourquoi Picasso était-il obligé, en effet, par tactique, là, nous rentrons dans la biographie des gens, de faire, alors qu'il ne l'était pas du tout, et vous savez bien qu'il y a eu l'épisode Foujon et que les soviétiques le détestaient, et qu'à Varsovie, il a été obligé de se mettre torse nu quand il a vu comment on traitait l'art petit bourgeois décadent. Je vais vous ressortir les discours de Radek, de Jdanov, de ceci, etc. C'est ça la propagande officielle, c'est ça. Donc, qui a très bien connu au gouvernement bourgeois, quel qu'il soit, parce qu'ils avaient très peur du changement.
Vous êtes porte ouverte. Est-ce que ça existe encore?
Mais bien sûr, plus que jamais.
Où voyez-vous cette peur de la créativité ou de la création dans les élites françaises? Moi, je vois...
On parlait tout à l'heure du surréalisme. Excusez-moi. Vous avez cité un numéro des Temps modernes consacré à Bataille, qui est un très bon numéro dans la revue, qui a été dirigé par Jean-Paul Sartre. Il a fallu tout ce temps, donc dirigé par Claude Lanzmann. Il a fallu tout ce temps pour que, d'une certaine façon, on en vienne à parler dans cette revue excellente de Georges Bataille. Moi, Georges Bataille, je le prends... Attendez, si vous trouvez que Georges Bataille est une porte ouverte, je ne suis pas d'accord. Il y a tout simplement une figure, à mon avis, admirable dans cette époque-là, En 1900, il faudrait l'étudier de plus près, c'est peu connu, il y a des documents qui sortent, qui sont révélés ces temps-ci, le collège de sociologie, etc. Ça touche très peu de gens, et c'est formidablement intéressant, parce qu'on a mis ça dans un coin.
Alors,
Moi, je suis d'accord, j'ai été un de même que la vie d'Antonin Artaud dans les hôpitaux psychiatriques français est une chose qui m'intéresse passionnément. J'ai été encore condamné par un tribunal français récemment pour avoir publié une conférence. Je m'excuse. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais elles sont intéressantes.
Oui, oui, oui. Je parle par connaissance de cause.
Non, mais écoutez, bon, oui, d'accord, mais alors, vous avez été condamné pour quoi?
Oui, mais ça, je ne peux pas le dire, mais j'ai été quand même condamné.
Moi, j'ai été condamné par le tribunal français. Bon, voilà. Donc, simplement, quand j'essaye de parler de cette période tragique de l'occupation nazie en France, de la vie des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques.
Vous savez qu'il y a eu une thèse là-dessus.
Car j'ai eu une thèse là-dessus qui n'est pas assez connue.
Mais qui est connue quand même. Elle a fait 3 ou 4 pages dans le monde.
40 000 morts.
Il y a quelques années.
Chaque fois que j'essaye, merci de l'avoir lu, mais vous êtes parmi les rares personnes qui savent ce genre de
choses. Un mot autour de Bataille, et puis après je voudrais interroger Max Gallo.
À propos de Bataille, moi je reconnais
40 000 morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques.
Oui, mais on n'en est plus là.
Non, mais l'import.
Mais ce n'est pas interrogé. Pour quelle raison,
Philippe Solers, l'importance de Bataille, moi je suis un lecteur de Bataille, l'importance de Bataille, ça se discute, c'est comme ça. En effet, on peut considérer qu'il a. Ce qui me choque dans votre position et que je ne peux pas admettre, je ne sais plus si c'est dans votre journal de l'année ou dans votre interview, c'est que en même temps, vous mettez Bataille sur un piédestal et vous écartez d'un revers de la main méprisant quelqu'un comme Eugène Sue, le naturalisme, Zola, etc. Mais pour moi, ces personnages font partie d'une dualité, et pas seulement d'une dualité, d'un jeu dans les différents courants de la littérature. Il y a Bataille, il y a Eugène Sue, et la hiérarchie, c'est la vôtre, mais on peut très bien concevoir que quelqu'un place Balzac plus haut que Bataille.
On peut très bien concevoir une autre hiérarchie.
Alors non, mais moi, ce n'est pas simplement une question d'hiérarchie, c'est l'actualité de ces débats, c'est-à-dire Bataille, auteur transgressif, qu'en est-il aujourd'hui? Et là, je vais lire une phrase de votre journal, Philippe Solers, qui m'a peut-être un peu fait sursauter. Après quoi, nous parlerons à nouveau de la nation. On voit mal Blanchot et Lévinas écoutant Don Giovanni, alors que Bataille, oui. Alors, j'ai lu cette phrase, je me suis dit d'abord, pour Lévinas, ça ne doit pas être vrai, puisque comme son fils, c'était Michael Lévinas, compositeur et pianiste, j'imagine que, bon gré mal gré, il devait sûrement au moins
70% écouter Don Giovanni.
Mais surtout, non, c'est autre chose que je veux dire. C'est-à-dire que
On ne peut plus rien dire.
Est-ce que ce qui les séparait, mais précisément, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de la jouissance, mais est-ce que précisément, ce n'est pas le fait de notre société actuelle que de ramener toute chose à la jouissance qu'on peut en avoir? Moyennant quoi, il n'y a plus là rien de très subversif. Et puis,
en effet, ce n'est pas subversif.
Et Lévinas, c'est là aussi que je voudrais intervenir 3 secondes, l'un des aspects les plus étonnants et les plus ambigus de son œuvre, c'est qu'elle nous parle d'éthique, mais elle nous parle aussi d'amour, d'érotisme, curieusement, dans un petit texte d'ailleurs qui s'appelle Le temps et l'autre, écrit en 47, et où précisément il essaye de dégager l'amour d'un modèle de la fusion qui était encore celui de Bataille, notamment dans l'érotisme, pour dire dans l'amour, dans l'érotisme, la différence vaut mieux que l'unité fusionnelle. Voilà quelque chose qui me paraît très intéressant, mais je ferme immédiatement cette parenthèse. Mais vous voyez, est-ce qu'on n'en est pas aujourd'hui à vouloir, si vous voulez, maintenir la subversion en état, en quelque sorte, de survie artificielle, à créer des oppositions, des dichotomies un peu fantaisistes, si vous voulez, simplement d'humeur, voilà, d'un bon côté celui-là, d'un mauvais côté celui-là, et tout tournant autour de la jouissance. Et à un moment où, précisément, la jouissance n'est quand même pas ce qui est la chose la plus récusée par notre société. Peut-être en parle-t-elle mal, mais disons qu'elle en parle beaucoup.
Cher Alain Finkielkraut,
oui.
J'ai écrit un livre sur Casanova qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a l'avantage, à mon avis, d'avoir bien lu les 3000 pages d'histoire de ma vie. C'est-à-dire d'avoir débusqué quel était le projet formidable que se donnait Casanova, homme des Lumières s'il en fut, à travers cette vie très, très romanesque. Et je crois que vous avez raison. Je crois que ce n'est pas la question de la subversion ou de la jouissance, parce qu'après tout, tout le monde peut être subversif quand il jouit. Le plus misérable jouit, dit Bataille, en crachant sur sa limite. N'est-ce pas ? C'est une phrase qui est peut-être un peu comme ça, forte, mais bon. Alors, passons. Mais je crois qu'en effet, le problème du puritanisme ou non est une question très profonde. Et je ne suis pas du tout pour faire l'apologie de la pornographie industrielle, industrialisée, dégradant ces questions qui sont des questions philosophiques très graves, très profonde. En revanche, si vous me dites qu'il n'y a pas de danger du tout de retour à l'ordre moral et à une régression planétaire, voire même américaine, voire l'affaire Clinton-Lewinsky, etc., cet déchaînement puritain sur la planète entière, sans parler des intégrismes divers qui reviennent comme chez eux à la faveur de Dieu qui n'en a jamais demandé tant, je crois qu'il y a un vrai problème historico-politique et philosophique. Donc voilà, de temps en temps, je jette comme ça un truc pour parce que je crois que Bataille est trop méconnu, puis voilà. D'accord. Et qu'on l'enferme trop dans cette amitié avec Blanchot.
Je ne confonds pas Bataille avec, je dirais, la marchandisation, si vous me tolérez ce mot, la marchandisation de la sexualité la plus débridée. Un hebdomadaire d'il y a 15 jours, je crois, annonçait la sortie de deux films, ou en effet, pas du tout des films X, mais des films de talent, où l'accouplement, je dirais, l'acte sexuel est montré dans sa vérité, pourquoi pas.
Dans sa vérité triste.
Peut-être dans sa vérité triste, quoique Bataille n'a pas un érotisme particulièrement gay à
ah non, c'est
lecture.
Un érotisme je tout à fait déchirant.
Je veux dire par là que la subversion aujourd'hui, elle ne se situe plus dans le domaine des mœurs. Si elle se situait dans le domaine des mœurs, la subversion, ce serait la sèse, ce serait l'abstinence aujourd'hui, et non pas
Bataille. Elle se situe où, la subversion?
La subversion, pour moi, elle se situe dans le fait de dire, par exemple, qu'il y a une collectivité qui s'appelle la nation et qu'on peut la prolonger.
Alors, d'accord.
Pour moi, c'est ça.
Alors, Max Gallo, alors une question. Malheureusement, le temps passe vite avec vous. Il nous reste 6 ou 7 minutes. La subversion, c'est de redonner sens et corps à cette idée nationale en voie éventuellement de dissolution. Mais on se demande tout de suite, et vous avez écrit un livre, L'amour de la nation expliqué à mon fils, on se demande tout de suite, la nation pour quoi faire? Pas pour s'adorer elle-même. Après tout, l'appartenance, quand on se dit j'appartiens à une nation, eh bien on reconnaît qu'on ne se fonde pas soi-même, qu'on n'est pas un sujet comme Dieu, c'est-à-dire on reconnaît une dette à l'égard d'une langue, à l'égard d'un héritage, etc. Et le nationalisme, au contraire, consiste à transférer sur la totalité nationale érigée en absolu, justement la volonté d'être Dieu. J'appartiens à une nation, je ne suis pas Dieu. Donc la vocation de la nation, ce n'est pas le nationalisme. Je ne ferai pas cette insulte. Mais précisément, alors on se dit, la nation française, pourquoi faire dans le monde?
Écoutez, moi,
Je voudrais simplement très vite préciser ma question, parce que De Gaulle disait très... l'indépendance est au peuple, parce que la liberté est aux individus. C'est notre vocation, c'est notre devoir d'encourager les nations à être fières d'elles-mêmes et à affirmer de plus en plus nettement leur personnalité propre tout en respectant celle des autres. La nation française, elle a ce rôle à jouer. Et moi, c'est au fond fidèle à ce message du général de Gaulle que j'ai dit, si les Slovènes, ils veulent être indépendants, ils ont le droit d'être indépendants parce que, ma foi, effectivement, notre nation, c'est peut-être son rôle dans l'humanité. Et j'ai constaté...
J'ai appelé mon petit livre L'amour de la France expliqué à mon fils, parce que je crois que l'appartenance à une nation, c'est d'abord le sentiment d'amour, c'est-à-dire quelque chose d'affectif qu'on a pour son histoire, ses paysages, et on ne peut pas l'imposer. Si demain les Corses en majorité décident, comme probablement les Kosovars, qu'ils veulent l'indépendance, je suis pour l'indépendance de la Corse et pour l'indépendance du Kosovo. Je veux dire par là que je crois qu'on ne peut pas imposer au nom d'une idée abstraite de la nation, on ne peut pas imposer aux hommes l'appartenance à la nation. Mais en revanche, on peut tenir le discours d'explication pour dire la nation que j'aime, c'est une nation qui s'inscrit dans une longue histoire que l'on peut faire connaître. Ce qui me déçoit et me désespère d'une certaine manière, c'est que même ce discours absolument ouvert ne peut plus être entendu par une bonne partie des élites de ce pays qui, moi par exemple, je me définirais non pas comme Philippe Soler, cet écrivain européen d'origine française, je me définirais comme écrivain français d'origine italienne, par exemple. Mmh. Ça vaut bien la vôtre.
Oui,
définition.
Mais alors, justement, Philippe Soler, c'est écrivain européen d'origine française, je parlais de la dette. Pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire moins tant l'amour qu'une certaine gratitude pour quelque chose qui vous a aidé à être ce que vous êtes, parce que nous ne sommes pas Dieu. Et cette dette-là, est-ce que vous la reconnaissez?
Écoutez, j'ai écrit...
Oui, j'imagine.
Bon. J'ai écrit un certain nombre, je m'excuse, c'était assez ridicule, un certain nombre de livres, par exemple, un petit gros bouquin qui s'appelle La guerre du goût, etc. Enfin, plus français que moi, tu meurs, si je peux dire. Oui. Hein, c'est pas Watteau, Fragonard, etc.
Oui, bon, mais alors pourquoi, attendez, pourquoi c'est Voltaire... une bonne France, une mauvaise France, une bonne France, une mauvaise France.
J'écoute les gens qui parlent de la France précisément parce que la France m'intéresse passionnément et que j'ai envie qu'elle soit la première à être en Europe.
Oui.
Parce que Paris est pour moi la capitale naturelle de l'Europe. Mmh. Je trouve que les Français, en effet, sont mal à l'aise, embarrassés avec leur France, n'en ont que des connaissances très superficielles, voire même tout à fait gothiques, qui reviennent là, comme ça, de temps en temps.
Mais peut-être précisément parce qu'on dit que la France est moisie d'une manière spectaculaire, qui brusquement renvoie les Français à un sentiment à la fois de frustration, de culpabilité.
Mais c'est pour les encourager à s'en débarrasser.
Non, ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas en enfouissant quelqu'un sous le fumier que vous allez déclarer qu'il sent bon.
J'ai pas dit la France du fumier.
Je veux dire, sous la moisissure. C'est pas comme ça qu'on procède. C'est en expliquant les choses, en montrant les contradictions, les combats qu'il faut mener concrètement, et pas seulement en annonçant comme ça du haut de son... de son statut, en annonçant, ben voilà, la France est moisie, etc.
Donc, j'entends des Roland, je vois des Roland moisis. Mais bien entendu, de tout ça part, vous m'avez parfaitement compris, d'une immense espérance. C'est-à-dire que j'ai foi dans l'Europe des Lumières, dont la lumière est la France.
Bien, mais écoutez, ce sera une conclusion provisoire. Il y a des Roland, mais il y a peut-être aussi de nouvelles menaces, de nouveaux dangers. En tout cas, je voulais vous remercier pour cette discussion en effet très vive et très intéressante. Alors je rappelle, Philippe Solers, que votre article La France moisie est reparu dans le dernier numéro de votre revue L'Infini, numéro 65 du printemps 99, que vous avez publié également L'année du tigre, votre journal de l'année 1998 aux éditions du Seuil, et vous avez au moins quelque chose en commun, Max Gallo et Philippe Solers, c'est l'éditeur de votre dernier livre. C'est au Seuil, en effet, que vous avez publié L'amour de la France expliqué à mon fils.